Bonsoir à tous, il est 18h passé de 15 minutes à Niamey. C'est l'heure du forum du studio Kalangou, votre rendez-vous quotidien d'émissions radiophoniques de débat et de dialogue sur des questions d'actualité ou de société que vous suivez grâce à notre réseau dynamique composé d'une quarantaine de radios partenaires émettant dans toutes les 8 régions du Niger. Ce soir, nous vous proposons le thème le respect du droit international humanitaire dans les situations de crise sanitaire, cas du COVID-19. Droit s'appliquant habituellement dans les situations de conflit armé, le DIH présente des dispositions apparentes dans d'autres situations où la dignité humaine se trouve être menacée. C'est le cas, par exemple, des crises sanitaires à l'image de celles nées de la propagation du coronavirus ou COVID-19 ayant contraint les autorités de plusieurs pays de la planète à proclamer l'état d'urgence sanitaire dans tout ou partie des territoires de leur État. Cette situation permet à l'État de renforcer ses mesures de prévention face à cette menace grave à la santé de la population que constitue la pandémie du coronavirus. Au cours de ce forum, nous chercherons donc à comprendre avec nos invités ce que c'est le droit international humanitaire DIH. Existe-t-il des dispositions du DIH applicables en temps de conflit qui se trouvent être en vigueur en cette période de lutte contre le coronavirus? Que prévoit le DIH dans le cadre de la protection du personnel sanitaire, des hôpitaux et des ambulances? Pour répondre à toutes ces questions et bien d'autres, Studio Kalangou reçoit ce soir M. Tigani Amadou, responsable de la communication du plan de riposte contre le COVID-19 de la Croix-Rouge nigérienne. Monsieur Tigani Amadou, bonsoir.
Bonsoir.
Et Monsieur Alfred Goubaye, il est juriste, président du Rassemblement des acteurs pour la promotion et le respect du DIH et des droits de l'homme, RazaPresse, DIH-DH. Président, bonsoir.
Bonsoir.
À la présentation, Michel Deji. Pour commencer, M. Alfred Goubaye, président du Rassemblement des acteurs pour la promotion et le respect du DIH et des droits de l'homme, RazaPresse, DIH-DH, rappelez-nous ce que c'est le droit international humanitaire, DIH et ses principes.
Merci, M. Michel. Je voudrais profiter de votre micro pour remercier le studio Kalangou pour cette invitation afin que nous puissions éclairer nos populations sur toutes ces dispositions pertinentes que prévoit le droit international humanitaire relativement à la crise sanitaire actuelle, celle du coronavirus. Alors, par rapport à cette question, je dirais dans un premier temps que le droit international humanitaire, c'est un ensemble de règles qui, pour des raisons humanitaires, visent à protéger les personnes qui ne participent pas ou plus aux conflits armés et d'autre part à limiter le choix des moyens et méthodes de guerre. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur la définition du droit international humanitaire. Il y a, comme vous l'avez dit, des principes qui régissent la guerre parce qu'on ne peut pas interdire la guerre, mais on peut donner à la guerre un visage humain, c'est-à-dire en la réglementant. Alors, il y a un certain nombre de principes qui la régissent, cette guerre. Parmi ces principes, je vais vous parler du premier, le principe de distinction. C'est une règle qui exige que les belligérants, c'est-à-dire les parties au conflit, qui leur demandent de faire en tout temps le distinguo entre les biens civils et les objectifs militaires. C'est-à-dire, dans vos opérations, vous êtes tenu de distinguer qu'est-ce qui est objectif militaire et qu'est-ce qui appartient à la population civile avant de mener votre attaque. Et de l'autre côté, vous avez également le principe de proportionnalité. Également dans l'attaque, en fait, votre riposte ou la réponse que vous apportez à l'ennemi doit être proportionnelle à ce que vous avez reçu comme attaque. C'est-à-dire ici, à ce niveau, donc les parties également au conflit. Parce que vous voyez souvent, ce n'est pas parce que, comme on le dit dans le cas de légitime défense, parce que quelqu'un est venu contre vous avec un couteau, que vous prenez une arme de destruction massive, ou bien vous prenez quand même une doucette pour l'attaquer. Vous voyez. Donc la proportionnalité ici voudrait en sorte que la réponse soit proportionnelle. Ce n'est pas parce que les autres sont venus avec des Kalachnikov, par exemple, que vous allez prendre des armes bactériologiques ou des armes chimiques.
Ces différents principes sont donc respectés par tous les États qui ont ratifié les conventions de Genève du 12 août 1949. Il s'agit donc des principes qui s'imposent aux États pendant les situations de conflit. Nous sommes dans une situation où on parle plutôt de crise sanitaire ou de état d'urgence sanitaire. Monsieur Tigani Amadou, responsable de la communication du plan de riposte contre le COVID-19 de la Croix-Rouge nigérienne. Que signifie crise sanitaire et état d'urgence sanitaire?
Merci Michel. Permettez-moi de vous remercier pour cette heureuse initiative. Effectivement, quand on parle de crise sanitaire, c'est une crise qui a atteint un certain niveau où les États sont obligés d'agir et d'agir vite. C'est le cas actuellement au Niger avec la pandémie du COVID-19 que nous vivons, parce que cette crise-là a drainé beaucoup de morts. Et on parle d'état d'urgence sanitaire quand, face à cette situation, l'État n'a plus d'autre choix pour protéger ses populations que de décréter un état d'urgence sanitaire pour mettre à l'abri non seulement les populations, mais également par rapport à l'existence même de l'État. Donc voilà ce que je pourrais dire par rapport, en tout cas, à ces deux concepts-là, la crise sanitaire et l'état d'urgence sanitaire.
Monsieur Alfred Goubadje, comment est-ce qu'il faut nuancer ces deux concepts, état d'urgence sanitaire et crise sanitaire?
Alors, les crises sanitaires, par définition, sont des événements touchant réellement ou potentiellement à un grand nombre de personnes, affectant la santé et pouvant éventuellement augmenter le facteur significatif de mortalité ou de surmortalité. L'état d'urgence, c'est une mesure exceptionnelle pouvant être décidée en Conseil des ministres en cas de catastrophe sanitaire, notamment en cas d'épidémie ou de pandémie mettant en péril la santé de la population. Donc, l'état d'urgence sanitaire, si vous voulez, est une sorte de copie-collée de la forme classique que nous connaissons de l'état d'urgence. Il y a juste une expression qui s'est ajoutée, sanitaire. Sinon, l'état d'urgence est une situation que nos États connaissent. Et l'état d'urgence est décrété quand, souvent, il y a un péril imminent pour la nation, en cas de catastrophe naturelle ou bien en cas d'attaque imminente contre la nation. Et dans ce cas d'espèce, dans notre situation actuelle, comme le grand frère l'a si bien dit, il y a une crise qui sévit, une crise sanitaire, celle du coronavirus. Donc, c'est pourquoi les autorités, pour contrecarrer cette situation qui mettra, si rien n'est fait, en péril la santé de nos populations, donc sont appelées à décréter l'état d'urgence sanitaire afin de restreindre ou contrôler et augmenter un certain nombre de pouvoirs des autorités afin de lutter efficacement contre cette situation et arriver à la victoire.
En cette période, M. Tidjani Amadou, responsable de la communication du plan de riposte contre le COVID-19 de la Croix-Rouge nigérienne, quelles sont les principales actions du mouvement de la Croix-Rouge au Niger dans le cadre de la lutte contre la propagation de cette pandémie de COVID-19?
Comme vous le savez, depuis l'apparition de cette maladie en décembre dernier jusqu'à aujourd'hui, plus de 2,5 millions de personnes sont affectées, avec à la clé plus de 200 000 personnes décédées. Au Niger, malheureusement, à la date du 30 avril, les services sanitaires compétents ont enregistré plus de 700 cas confirmés, plus de 400 guéris, près de 250 en cours de traitement et 32 décès. C'est beaucoup pour un pays comme le Niger. C'est pourquoi aujourd'hui il n'est un secret pour personne que cette situation préoccupe nos autorités au plus haut niveau, mais aussi aux acteurs humanitaires que nous sommes. Donc face à cette situation, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé publique, a lancé un appel en direction du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge présent au Niger pour l'assister dans son plan de riposte. Alors, à travers la réaction, en tout cas, du mouvement Croix-Rouge, nous avons aussitôt réuni l'ensemble du mouvement pour réagir efficacement.
Quand vous parlez de mouvement, c'est...
Le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge présent au Niger. C'est-à-dire
qu'il y a trois composantes.
Il y a la Fédération internationale de la Croix-Rouge et les sociétés nationales qui sont en tout cas présentes au Niger pour assister la Croix-Rouge nigérienne en tant que société nationale du Niger. Alors, l'État a fait appel à la Croix-Rouge parce que, comme vous le savez, la Croix-Rouge a été reconnue comme une structure volontaire agissant dans le secours. La Croix-Rouge est sur tous les fronts de situations d'urgence et promotrice de programmes et de préparation et réponse aux urgences. Elle a ses branches locales, elle est présente sur l'ensemble du territoire avec en tout cas 73 comités départementaux et communaux avec plus de 10 000 volontaires sur le territoire. Elle possède également une certaine expertise dans la préparation et la réponse aux urgences. C'est pourquoi dans nos activités, nous avons essayé de focaliser nos actions sur les actions de communication des risques et d'engagement communautaire, sur la sensibilisation également sur les bonnes pratiques, la prévention et les actions de contrôle des infections, la formation également des acteurs, c'est-à-dire de nos volontaires et certains agents de santé, tels que les trois hôpitaux de Niamey, la recherche et le suivi des cas contacts. Nous avons également axé nos actions sur la prise de la température des passagers au niveau de l'aéroport international Diori Amani de Niamey, dès le 19 mars dernier. Donc tous les passagers qui venaient, en tout cas, ont été assistés par les volontaires de la Croix-Rouge. Et le ministère nous a également confié une lourde tâche, c'est-à-dire les enterrements dignes et sécurisés. C'est-à-dire quand il y a des morts, donc c'est à la Croix-Rouge de s'en charger de la désinfection des corps, de la désinfection également des domiciles des cas confirmés et suspects, en tout cas jusqu'à la mise dans le sac mortuaire. Donc c'est un travail vraiment humanitaire de titan que l'État a confié à la Croix-Rouge et que la Croix-Rouge exécute vraiment avec dignité. Donc c'est le lieu pour moi aujourd'hui de rendre un hommage mérité à ces volontaires qui travaillent, puisque nous avons mobilisé 630 volontaires qui sont formés sur l'ensemble des 8 régions et qui assistent les services de santé de l'État dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Nous avons également formé 24 personnes, c'est-à-dire 12 volontaires et 12 hygiénistes des morgues des hôpitaux de Niamey qui ont reçu vraiment une formation assez costaud sur la gestion des dépouilles mortelles. La formation a été évidemment facilitée par un médecin légiste du ministère de la Santé publique et les deux médecins de la Croix-Rouge nigérienne. Nous avons également renforcé les pratiques d'hygiène dans toutes les structures Croix-Rouge avec l'installation d'un dispositif adéquat de lavage des mains, la formation du staff et des volontaires et la mise à disposition surtout de masques et de gel hydroalcoolique. Nous avons également conçu des outils de communication pour faire passer le message du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à travers des sketchs, des spots, des messages de sensibilisation et plusieurs actions en tout cas qui concourent à faire comprendre à la population le rôle que la Croix-Rouge doit jouer dans la prise en charge, mais également dans la lutte contre cette pandémie. Nous avons également formé une cinquantaine de volontaires et qui sont mis à la disposition des structures de santé à Tel Abyei, à Zinder, à Diffa pour renforcer la sensibilisation contre le Covid et la prise en charge des malades et accompagnants.
On reviendra sur d'autres aspects, Monsieur Tigane Amadou. Alors, Monsieur Alfred Goubagué, président du Raza Press, DIH, existe-t-il des dispositions du droit international humanitaire applicables en temps de conflit qui se trouvent être en vigueur en cette période?
Merci pour cette question, Monsieur Michel. Effectivement, le droit international humanitaire, à travers les conventions de Genève et leurs protocoles additionnels, ont prévu un certain nombre de mécanismes ou un certain nombre de dispositions pertinentes qui sont dignes d'intérêt pendant cette crise sanitaire actuelle. Je vais déjà vous parler de tout ce qui touche actuellement aux mesures barrières dans le sens de la limitation de la propagation de ce virus. Donc parmi ces mesures barrières, vous avez le lavage des mains, vous avez le personnel sanitaire qui est utilisé, etc. Donc le droit international humanitaire a déjà prévu des dispositions dans le sens de la protection de ce personnel sanitaire, dans le sens de la protection des installations d'eau pour permettre aux populations de pouvoir se laver les mains. Parce que s'il n'y a pas d'eau, les populations ne peuvent pas se laver les mains. Donc le droit international humanitaire, à travers les conventions de Genève et les protocoles additionnels, a des dispositions. Maintenant, s'agissant du premier point de cette question, c'est-à-dire la question de l'eau. L'eau est une ressource vitale pour la population, est une ressource importante. Et vous voyez, dans la crise sanitaire actuelle, les autorités sanitaires ou le gouvernement a demandé aux populations, dans le cadre de la lutte contre cette pandémie, de se laver régulièrement les mains. Alors, donc, si les populations n'ont pas d'eau, comment est-ce qu'elles peuvent se laver les mains? Et si les populations ne se lavent pas les mains, qu'est-ce qui va se passer? La propagation à outrance du virus. Donc l'eau est un facteur important dans la lutte contre cette pandémie. Alors, qu'est-ce que dit le droit international humanitaire par rapport aux obligations des belligérants de la protection de l'eau? Regardons un peu l'article 54, paragraphe 2 du protocole additionnel numéro 1 aux conventions de Genève du 12 août 1949. Cet article dispose qu'il est interdit de détruire, d'enlever ou de mettre hors d'usage des biens indispensables à la survie des populations, tels que les installations et réserves d'eau potable et les ouvrages d'irrigation en vue d'en priver, à raison de leur valeur de subsistance, la population civile ou la partie adverse, quel que soit le motif dont on s'inspire, que ce soit pour affamer des populations civiles, provoquer leur déplacement ou pour toute autre raison. Je pense que cette disposition, elle est assez claire et pertinente pour démontrer que les belligérants, dans le cadre de leurs opérations militaires, sont tenus de prendre en compte le respect ou la protection des installations d'eau, des points d'approvisionnement d'eau, de toutes les irrigations ou bien toutes les dispositions que les populations ont prises pour avoir de l'eau. Donc cela doit être protégé par les parties au conflit. Autrement, si les parties ne respectent pas cette disposition et s'attaquent à ces biens, les populations ne peuvent pas se laver les mains et par conséquent seront dominées et vaincues par la propagation de ce virus. Et c'est pourquoi, tout à l'heure, lors de votre première question, vous avez parlé des principes du droit international humanitaire. Et j'avais eu à parler du principe de distinction, du principe de précaution et de proportionnalité. Donc là également, vous voyez, les parties, en procédant à leurs opérations militaires, sont obligées de prendre des mesures, des précautions, afin de protéger, pour ne pas détruire ces installations
d'eau. Les installations d'eau, bien sûr.
Voilà. Donc, c'est ce que prévoit le droit international humanitaire par rapport à la question de l'eau.
Monsieur Tidiane Amadou, du mouvement de la Croix-Rouge, on voit bien plus l'utilité de l'eau dans le cadre du droit à la santé en cette période de lutte contre le COVID-19, où les populations sont appelées à multiplier les lavages des mains, alors même que l'accès à l'eau reste toujours de grandes préoccupations dans beaucoup de contrées du monde. À votre niveau, quelles sont les actions que vous menez afin que l'eau soit accessible à la population, afin que ce principe de lavage des mains soit répété de façon fréquente partout au Niger?
C'est vrai, l'accès à l'eau potable se pose toujours avec beaucoup d'acuité ici au Niger, mais le mouvement international de la Croix-Rouge, le Croissant Rouge, à travers la Croix-Rouge nigérienne, qui est auxiliaire des pouvoirs publics dans son action humanitaire, a déjà pensé à ce volet. Et c'est ainsi que, en tout cas, plusieurs forages et également des ponts d'eau modernes ont été construits un peu partout au Niger à travers la mobilisation du pouvoir de l'humanité. Nous avons également, tout au long de la route migratoire, construit ou réhabilité des puits dans le désert. Nous avons également, en tout cas dans les villages les plus reculés, construit des points d'eau modernes pour permettre à la population d'avoir un accès à l'eau potable. Donc c'est un facteur que nous avons déjà pris en compte dans notre agenda, puisque cela nous incombe en tant qu'auxiliaires des pouvoirs publics. C'est un des rôles du mouvement Croix-Rouge, en tout cas d'assister les services de l'État et surtout de mettre à disposition de la population des points d'eau modernes pour que, en tout cas, elle puisse être à l'abri de toute contamination et de tout problème de santé en eau. Donc, c'est un facteur qui nous tient beaucoup à cœur et que déjà nous sommes en pleine action avant même l'apparition de cette maladie. Et nous continuons aujourd'hui également à construire des points d'eau modernes pour mettre à la disposition de nos populations nigériennes. Des volontaires ont été également recyclés parce qu'ils ont déjà reçu la formation pendant plusieurs années. Ils ont été recyclés pour continuer la sensibilisation par rapport à l'utilisation adéquate de l'eau potable et surtout l'hygiène qui doit en tout cas accompagner la construction de ces points d'eau modernes. Donc nos volontaires sont aguerris, ils sont formés par rapport à ce volet-là. Et ils continuent actuellement la sensibilisation au niveau de tous les villages reculés, puisque les centres urbains n'en parlons pas. Ils sont aujourd'hui en train de continuer la sensibilisation au niveau de ces populations-là pour une utilisation rationnelle de l'eau potable.
Monsieur Alfred Goubaye, président du RESAPRES, DIH, de façon spécifique, que prévoit le droit international humanitaire dans le cadre de la protection du personnel sanitaire, des hôpitaux, mais aussi des ambulances?
Dans le cadre de leurs opérations militaires, les belligérants sont également soumis à une obligation, celle justement consistant à protéger le personnel sanitaire, les unités sanitaires, c'est-à-dire les hôpitaux, les ambulances et toutes les infrastructures sanitaires de manière générale, car indispensables aux activités du personnel sanitaire. Donc, imaginez un temps soit peu, parce que à l'heure où nous parlons, il y a des zones dans lesquelles le conflit est en train de battre son plein. Et il y a des personnes qui vivent dans ces zones ou dans ces contrées. Vous voyez. Donc, et le virus est vraiment un virus qui se propage très facilement, très rapidement. Donc, ces zones peuvent être également être atteintes par ce virus. Alors, ce qui veut dire qu'il y a un besoin essentiel du personnel sanitaire pour aider. Et le grand frère Tijani de la Croix-Rouge a très bien expliqué ce que la Croix-Rouge est en train de faire, parce que la Croix-Rouge également a un volet sanitaire, et il l'a si bien expliqué tout à l'heure. Donc, on a besoin du personnel sanitaire pour aider. Et aujourd'hui, je pense que le personnel sanitaire est en première ligne dans la lutte contre la pandémie du coronavirus, à l'image des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre les groupes armés informels, etc. Donc, ce qui veut dire quoi? C'est-à-dire que ce personnel doit avoir toute l'assistance nécessaire et possible afin de l'aider dans le cadre de sa lutte contre le coronavirus. Donc, à ce niveau, le droit international humanitaire, notamment au niveau de l'article 15, paragraphe 1er du protocole additionnel numéro 1 aux conventions de Genève, prévoit ceci: que le personnel sanitaire civil sera respecté et protégé. Le paragraphe, donc déjà vous voyez que c'est assez clair. Protection absolue du personnel sanitaire. Ils ne doivent ni être inquiétés, ni être attaqués, parce que ce sont des acteurs neutres qui interviennent de manière neutre afin de sauver des vies humaines. Ils doivent être protégés. L'article, ou bien le paragraphe du même article prévoit qu'en cas de besoin, toute assistance possible doit être donnée au personnel sanitaire civil dans une zone où les services sanitaires civils seraient désorganisés en raison des combats, etc. Et de l'autre côté, l'article 12 du même protocole prévoit que les unités sanitaires doivent en tout temps être respectées et protégées et ne doivent pas faire l'objet d'attaques. Parmi ces unités sanitaires, vous avez les hôpitaux, vous avez les... Aujourd'hui, dans le cadre du plan de riposte qu'a pris le gouvernement, vous avez, le gouvernement a mis des ambulances, je pense, dans les 5 communes de la ville de Niamey.
Il a mis plus d'ambulances à la disposition de la population.
De la population, dans le cadre du plan de riposte. Donc, vous voyez, ceci constitue un arsenal important dans le cadre de la lutte. Les ambulances. Vous avez également les hôpitaux, les dispensaires, etc. Ce sont également des unités indispensables dans le cadre de cette lutte. Alors, cet article 12 du premier protocole prévoit que toutes ces unités doivent être protégées au même titre que le personnel sanitaire. C'est pourquoi le droit international de l'humanité, à travers les dispositions que j'ai citées tantôt, prévoit ou bien accorde une protection sacrée à ce personnel sanitaire, à ces unités, dans le cadre de la propagation du coronavirus.
Monsieur Tidiane Amadou, est-ce que vous avez, au niveau du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, des relations particulières justement avec le personnel sanitaire?
Comme vous le savez, dès sa création, la Croix-Rouge nigérienne a été déclarée une organisation d'utilité, en tout cas de secours. C'est pour cela qu'elle a été mise sous tutelle du ministère de la Santé publique. Donc à ce titre-là, nous travaillons en tout cas de concert avec le ministère de la Santé publique. Tous les plans de contingence élaborés par l'État, donc la Croix-Rouge nigérienne et le mouvement dans son ensemble, en tout cas apportent un soutien de taille à la mise en œuvre de ces différents plans. Toutes nos activités que nous menons sur le terrain, à Niamey comme à l'intérieur du pays, en tout cas, sont exécutées de concert avec les agents du ministère de la Santé publique. C'est pour cela que tout ce que nous faisons, en tout cas à l'intérieur comme à Niamey, sont organisés de concert avec les directions régionales de santé publique. En tout cas, qui sont sous l'autorité du ministère de la Santé publique. Donc, à résumer, nous travaillons en tout cas étroitement avec ce ministère qui nous apporte également un appui conséquent dans le cadre de la mise en œuvre de nos activités.
Le DIH prévoit également des dispositions qui concernent les détenus. Ces dispositions appellent notamment à la protection du droit à la santé des prisonniers et à éviter le surpeuplement des maisons d'arrêt. Des mesures beaucoup plus respectées par beaucoup d'États en cette période. Que dit donc spécifiquement le DIH au sujet des prisonniers? Monsieur Alfred Goubagué, président du RazaPress DIH.
Merci pour cette question également, monsieur Michel. Quand vous analysez ou quand vous regardez les maisons d'arrêt de par le monde, vous allez constater que ce sont des lieux généralement de surpeuplement. C'est-à-dire les détenus dépassent souvent la limite acceptable pour vivre dans un endroit. Alors, qui parle de surpeuplement parle de la propagation des maladies, parle des questions d'hygiène, parle des questions d'assainissement. Ici, si vous prenez cette salle, si on met au-delà de 50 personnes dans cette salle, certainement vous allez sentir une certaine odeur se dégager, vous allez sentir la promiscuité, etc., etc. Donc, la question du surpeuplement va de soi, va de pair avec les mesures d'hygiène et d'assainissement. Et je crois que récemment, les autorités ont pris des mesures dans le sens du désengorgement des maisons d'arrêt, ce qui est une mesure ou bien un facteur quand même assez important dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.
C'est vrai, récemment, un peu plus de 1500 détenus avaient été libérés. C'était donc une grâce que le président de la République leur avait accordée dans le cadre justement de cette lutte contre le Covid-19.
Voilà. Donc, vous voyez, le droit international humanitaire oblige à ce que les mesures d'hygiène et d'assainissement soient de mise, soient respectées dans les maisons d'arrêt afin d'éviter la propagation du virus. Cela fait que on a besoin du dispositif de lavage des mains, on a besoin que les prisonniers aient quand même assez d'espace. Quand il y a trop de monde, on ne peut pas respecter la distanciation sociale.
Mmh.
Ouais. Donc, ce qui fait qu'on a besoin également de désengorger, comme ça a été le cas au Niger. On a besoin également de renforcer les mesures d'hygiène et d'assainissement pour que la vie des prisonniers, des détenus et la santé des détenus soient préservées. Et je pense que si cela est fait, ce serait une mesure importante dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.
Qu'en est-il de la protection des personnes vulnérables, c'est-à-dire les personnes handicapées, les personnes âgées, etc.?
Alors, s'agissant des personnes vulnérables, il y a des mesures que le gouvernement a édictées, telles que le respect de la distanciation sociale, telles que le lavage des mains, etc. Mais il y a des personnes qui dépendent entièrement des autres, qui ne peuvent rien faire d'elles-mêmes. Quand vous prenez par exemple les personnes âgées, il y a des personnes âgées qui ont besoin des autres pour leurs besoins au quotidien. Mais ces personnes vulnérables, vous voyez qu'elles sont incapables ou qu'elles seraient limitées dans le respect des mesures barrières. Vous avez également les personnes malades. Certaines personnes peuvent être, si vous voulez, vulnérables quant à la réception de la contamination. Par exemple, une personne malade, couchée, elle ne peut pas... Maintenant, par exemple, si vous êtes avec quelqu'un, vous avez la possibilité de mettre une distance entre vous et cette personne. Mais une personne qui est malade, couchée, elle est limitée ou bien à l'image du vieillard ou bien des personnes âgées. Donc, les deux, on les met sous la même étiquette. Le droit international humanitaire, DIH, à travers les dispositions du premier protocole, le protocole additionnel 1, prévoit que les personnes malades, c'est-à-dire parce que vous savez, quand il y a la guerre, il y a des personnes qui sont blessées, il y a des personnes qui sont hors combat. Ces personnes ont déposé les armes. Ou bien souvent même des populations civiles qui ont reçu des bombardements. Il y a beaucoup de blessés et des malades parmi ces personnes. Donc vous voyez, ce sont des personnes déjà vulnérables. Elles ne sont, si vous voulez, d'aucune menace pour l'ennemi. Alors le droit international humanitaire prévoit que ces personnes malades sur le théâtre des hostilités doivent avoir une protection particulière de la part des belligérants. Un malade a droit à l'assistance et aux soins. C'est pourquoi j'avais parlé tantôt de la protection du personnel sanitaire qui serait amené à administrer des soins à ces malades sur le théâtre des hostilités. Mmh. Au même titre que les personnes âgées qui sont des personnes vulnérables. Donc c'est pourquoi le droit international humanitaire demande aux belligérants de protéger. Et si ces personnes sont malades, de les soigner. Si elles sont malades, de permettre à ce que le personnel sanitaire puisse avoir librement accès à ces personnes afin de leur apporter les soins. Parce que la santé est un droit.
Nous avons aussi la question de la protection des enfants. Comment le DIH traite la question de la protection de l'enfant et celle de leur droit à l'éducation?
C'est une question assez pertinente parce que on dit que les enfants sont l'avenir de demain.
Mmh.
Et un pays sans éducation, sans école, est un pays voué quelque part à l'échec. Donc, la nation a besoin de former une élite. Et l'élite commence déjà dès le bas âge. C'est-à-dire la question de l'éducation, de l'école. Et je voudrais saluer et encourager vraiment cette initiative de la Croix-Rouge nigérienne. Je pense qu'il y a une école que dirige la Croix-Rouge nigérienne.
Nous sommes presque à la fin de cette émission. Donc, En quelques mots, c'est de nous dire ce que prévoit le droit international humanitaire dans le cadre de la protection des droits des enfants pendant les situations de conflit armé, qu'on peut retrouver également en cette période de lutte contre le COVID-19. Monsieur Alfred Goubadjian. Okay.
Alors, le droit international humanitaire dans le cadre de l'éducation des enfants a prévu que les parties au conflit doivent tout faire et en toutes circonstances pour protéger les écoles. Parce que vous voyez souvent les parties au conflit en violation des règles du droit international humanitaire s'attaquent aux écoles, détruisent les écoles. Les écoles sont des biens civils, indispensables à la population civile. Donc, les mesures de précaution, de distinction obligent les belligérants à protéger les écoles pour que les enfants puissent aller à l'école afin de relever les défis de demain des populations. Et je salue, comme je l'ai dit, cette initiative de la Croix-Rouge. Et aujourd'hui, l'école mission est vraiment une réussite totale dans le cadre des actions de la Croix-Rouge.
Monsieur Tigani Amadou.
Par rapport au respect des droits des enfants, je vais vous raconter une petite histoire qu'on a vécue en mars dernier, en fin mars. Donc nous avons accueilli 5858 enfants talibés dont l'âge varie entre 6 et 14 ans, qui sont refoulés du Nigeria par mesure préventive, hein, et qui sont arrivés à la frontière entre ce pays et le Niger, notamment à Memoujia. Alors la Croix-Rouge nigérienne et l'ensemble du mouvement ont pris en charge ces derniers avec des repas, avec des consultations médicales, des distributions de kits d'hygiène et surtout la prise en charge de leur transport jusqu'à leur village. Ils ont aussi reçu des conseils essentiels et des orientations sur les mesures de protection contre la maladie à coronavirus. Toujours dans la même droite ligne, la Croix-Rouge nigérienne a au moins une dizaine d'écoles qu'elle a construites pour favoriser la scolarisation de cette jeunesse-là et contribuer là à redynamiser le système éducatif nigérien. Donc, la Croix-Rouge nigérienne a pensé à ce volet depuis longtemps et elle continue avec l'appui également des autres acteurs du mouvement Croix-Rouge à protéger les droits de ses enfants, notamment le droit à l'éducation. Donc, c'est pour cela que chaque année, il y a des classes qui sont construites pour renforcer nos écoles qui sont déjà sur place et renforcer également le système éducatif nigérien.
Les enfants talibés qui peuvent être également considérés comme vulnérables. Fidèles auditeurs, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou qui a eu pour thème le respect du droit international humanitaire DIH dans les situations de crise sanitaire cas du COVID-19. Nous retenons que le DIH, droit international humanitaire, à travers ses conventions de Genève de 1949, s'applique en situation de conflits armés, mais nombre de leurs dispositions restent pertinentes même en situation de paix ou en situation de crise sanitaire, comme c'est le cas actuellement en cette période de lutte contre cette propagation du COVID-19. Nous étions en compagnie de Tigani Amadou, chargé de la communication du plan de riposte contre le COVID-19 de la Croix-Rouge nigérienne, et Alfred Goubagué, juriste, président du Rassemblement des acteurs pour la promotion et le respect du DIH et des droits de l'homme, RazaPress DIH. Nous disons merci à nos invités. Merci également à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Au micro, c'était Michel Degi pour la présentation. Rendez-vous demain à la même heure pour un autre numéro du Forum de Studio Kalangou. Excellente soirée et au revoir.